Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
8h40, la revue de presse avec Adeline François. Dans la presse ce matin, Adeline, des châteaux, une église et des temples.
Ah, si Versailles m'était compté. Eh bien justement, ce matin, Versailles m'est compté sous la plume d'un professeur d'histoire, Michel Verger-Franceschi, dans Marianne cette semaine. Versailles, écrit-il, ce château que le monde entier envie à la France au point de l'avoir imité partout sans arriver à le copier. À l'intérieur du château vivait un curieux couple. Un roi, Louis XIV, jeune, beau, séduisant, avec une volonté de réforme confiée à Colbert. Aux côtés du roi, une femme, la sienne, aimée envers et contre tous, quoique plus âgée que lui. Madame de Maintenon, le roi m'a honoré jusqu'à mes 70 ans passés, aimait-elle à répéter. Au début du règne, la France va mal. Louis XIV veut ouvrir le pays à la mondialisation. Il veut du café de Martinique, du coton américain, des soies de Chine. Il veut conquérir les marchés. Il construit la galerie des glaces pour arracher le monopole du verre à Venise. Il construit la manufacture des gobelins pour arracher le velours à Gênes et les tapisseries aux Flandres. Le roi ouvre le royaume sur le monde. Il multiplie aussi les ordonnances sur le commerce, sur la marine. Et si, en fait, Emmanuel Macron se prenait pour le roi soleil ? Eh bien, c'est à lire dans Marianne cette semaine.
L'hebdomadaire qui épingle un peu plus loin la macronisation du Figaro.
Et oui, le quotidien conservateur accusé de mettre en scène jour après jour le triomphe de la Macronie. Et alors, ça commence à fâcher une bonne partie de la droite, orpheline de son journal favori. Le Fig est devenu un torchon pro-gouvernemental, s'énerve un ancien porte-parole de François Fillon dans Marianne. C'était le dernier journal de droite, maintenant il n'y en a plus aucun, se désole aussi Thierry Mariani dans l'article. Les lecteurs du Figaro font part, eux aussi, de leur énervement. Le service courrier du Figaro croulerait sous les lettres furibardes. Et si, en fait, l'identité brouillée du Figaro n'était que le reflet de la crise d'identité que traverse la droite française, suggère Marianne. Alors regardons la une du Figaro ce matin. Mmh. Loi travail, Macron mise sur la neutralité des syndicats. Et en sous-titre, l'embarras de la droite devant la réforme. Alors qui sait, les lecteurs de droite se rabattront peut-être un jour sur Libération, qui titre ce matin « Macron, un roi sans partage ». Il y a aussi le quotidien libéral L'Opinion avec à sa une ce matin « Macron se taille un parti sur mesure » et ce fabuleux dessin de CAQ qui reprend, vous savez, le célèbre visuel des gramophones Pâté Marconi avec le petit chien devant le gramophone dont la marque était bien sûr la voix de son maître. La marque a bien sûr été rebaptisée Pâté Macroni.
Dans la presse aussi ce matin, non pas un château, mais une église.
Oui, avec un pléonasme à la une du Progrès à Lyon, le mystérieux secret de l'église. Le journal revient en fait sur la garde à vue hier de Muriel Boll dans l'affaire Grégory et ce message énigmatique découvert il y a quelques jours dans le registre de l'église de l'Épanche sur Vologne. C'est derrière cette église qu'est enterré Grégory Villemain. Le mois dernier, une paroissienne qui donne des cours de catéchisme dans cette église jette un œil au registre et son regard s'arrête sur un des derniers messages écrits dans le livre. « C'est bien Bernard L. qui a tué Grégory, j'étais avec lui, signé Muriel Boll. » La paroissienne alerte le maire, qui prévient les gendarmes. Un expert en génétique analyse la page. Il y retrouve 6 traces d'ADN et l'un correspond à l'ADN prélevé il y a 8 ans sur Muriel Boll. Ordre est donné le 14 juin dernier de refaire un prélèvement d'ADN sur Muriel qui en fait ne va pas correspondre avec celui du livre d'église. Rebondissement surréaliste à l'image de la démesure historique de l'affaire Grégory, dit ce matin l'Est républicain. Ce mot ne serait-il qu'une blague ? Le Monde, en kiosque cet après-midi, affirme que selon les enquêteurs, ce serait plutôt les confessions de quelqu'un qui sait la vérité et qui a voulu laisser un nouvel indice. Le Figaro, de son côté, révèle que sur les 6 traces d'ADN identifiées dans le livre d'église, l'une correspond à l'ADN d'un magistrat qui a été en poste dans les Vosges, puis en Meurthe-et-Moselle. Ce magistrat a fait partie de la vague de prélèvements ADN qui ont eu lieu à plusieurs reprises au cours de cette affaire décidément insondable.
Vous nous parlez maintenant des centres commerciaux.
Oui, et là, on tente de percer le mystère non pas d'une église, mais des temples de la consommation avec une réflexion passionnante que livre ce matin le site Slate sur l'industrie des centres commerciaux. Une industrie qui a rendu la France moche, qui a contribué au déclin des centres-villes. Du coup, les consommateurs s'en détournent, mais l'industrie a plus d'un tour dans son sac de shopping. Et le salon de l'immobilier commercial qui se tient en ce moment à Paris donne un petit aperçu de ce qui se trame en ce moment. La généralisation du modèle des centres commerciaux au centre-ville eux-mêmes, avec de plus en plus de centres qui s'installent, non pas en périphérie, mais en cœur de ville. Et alors, fini le centre commercial boîte à chaussures d'antan, le centre du futur est beau, dessiné par des architectes célèbres, avec des allées à ciel ouvert, des puits de lumière partout, et il s'étend dans tout le centre-ville. Il se décloisonne, si bien qu'on se demande comment on va finir par le distinguer du reste de la ville. Jacques Attali disait que la France était un hôtel. Il est probable qu'elle devienne sous peu un immense centre commercial à ciel ouvert.
Du coup, courage, fuyons la plage. Hein.
Oui, car voilà sans doute un mystère que vous avez toujours rêvé de percer. Comment construire un château parfait? Alors, pas le château de Versailles, hein, le château de sable parfait. Eh bien, juste avant le début des vacances, des chercheurs viennent d'établir une formule scientifique qui pourrait bien vous aider, c'est à lire sur le site The Conversation, avec les secrets livrés par un sédimentologiste, un spécialiste du sable. Alors, la formule magique, un seau d'eau pour 8 seaux de sable sec. Si vous n'avez pas de matériel scientifique, pas de panique, il vous faut simplement trouver un emplacement dans la bande de sable qui est située entre la ligne de marée haute et celle de marée basse. Ensuite, il y a une corrélation entre l'âge du constructeur du château, la taille de la pelle et la vitesse à laquelle l'ennui s'installe. Je vous assure, l'article est délicieux. La taille et la forme du seau ont aussi leur importance. Préférez les seaux simples et ronds. Et tandis que vous construisez, gardez une pensée pour l'histoire. Non pas seulement l'histoire imaginaire de votre château, mais aussi l'histoire réelle du sable que vous manipulez. Chaque grain est un fragment de roche qui encapsule une longue histoire de nos montagnes disparues, de nos rivières, de nos marécages, de nos climats et des événements du passé. Autant d'éléments qui racontent l'histoire de notre terre. Alors attention quand même au roi soleil, il pourrait vous brûler la peau.
Merci beaucoup cette revue de presse. Adeline François, on vous retrouve demain matin.
Si vous voulez bien.